Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, Média.
Avec vous sur Sud Radio, il y a Patrick Roger qui est venu nous faire un petit coucou dans le studio. On est content de le retrouver, vous aussi j'imagine, tous les matins avec Cécile de Minibus pour la matinale, le grand matin Sud Radio. Et nous, on est content de vous retrouver. Bonjour Gilles Gansman.
Bonjour Valérie.
Lundi 26 avril, déjà, vous vous rendez compte.
Oui.
On va avoir Claude Sérillon avec nous dans un instant. Journal 2020, paru aux éditions 100 000 milliards. Très particulier d'ailleurs comme mode d'édition.
Absolument.
On va en parler avec lui. Et puis à 10h30, Katia Chapoutier pour parler de l'école à la maison. Alors Gilles, la question du jour...
La question du jour, je vous l'évoquais aussi dans mon zapping, c'est on a la disparition subite et assez violente de Yves Régnier, qui était dans les médias peu de temps avant, puis qui était même à la télévision dans le téléfilm
Commissaire Moulin, que... vous avez un trou de mémoire.
Dans le téléfilm avec Jean-Luc Reichmann.
Avec Jean-Luc Reichmann, absolument. Léo Mattei, il a réalisé.
Passé jeudi.
Il est passé à la réalisation et puis on a vu le témoignage de Jean-Luc Reichmann qui disait qu'il l'avait eu la veille.
Absolument.
Effectivement, il est mort d'une crise cardiaque apparemment. Donc,
et nous, on voulait vous demander ce que vous retenez d'Yves Régnier parce qu'il n'a pas fait que Commissaire Moulin.
Ouais.
Il a été connu avec les Globetrotters et Belphégor, et puis évidemment sur le téléfilm de Jacqueline Sauvage.
Évidemment... Oui, et puis récemment avec aussi sur Fourniret.
Absolument.
Il a réalisé pas mal de fiction en choc. Donc,
nous, on l'avait reçu pour l'affaire de Patrick Dils. On avait
absolument.
Même eu Patrick Dils au téléphone. Ils avaient dialogué tous les deux. Ah, c'était il y a longtemps, madame.
Ouais,
eh bien, pour nos éditeurs, à 80%, Yves Régnier, c'est Commissaire Moulin,
évidemment.
Belphégor à 9%, Belphégor. Oui. Et puis les Globetrotters, 7%. Et en dernier, Jacqueline Sauvage, vous pouvez aller voter sur le compte Twitter de Sud Radio.
Eh bien, très bien, on passe au zapping.
Sud Radio, 10h midi, Média, l'instant zapping.
Et je vous en parlais, Valérie, la mort du comédien Yves Régnier, connu donc pour son rôle iconique des années 90, le commissaire Moulin. C'était aussi la voix d'un tas de stars américaines, puisqu'il faisait beaucoup de doublages. Et il avait été révélé avec le feuilleton de l'ORTF en 1966, les Globetrotters, où il parcourait le monde. Ça a duré 39 épisodes. Une époque de voyage dont on se souvenait Yves Régnier qui avait donné cette anecdote.
On partait à 11. Puis il nous arrivait plein de couilles hein, partout où on allait. Il nous arrivait des trucs absolument hallucinants. En Thaïlande, on est resté quand même un mois à rien foutre à l'hôtel. Allez, et on se baignait toute la journée, tout ça. On se faisait masser comme des fous et tout en Thaïlande. Parce qu'ils avaient saisi le matériel, matériel caméra, parce que je sais pas quoi, les droits de douane et tout. Donc ça a pris un mois pour que le Quai d'Orsay arrive à débloquer la situation.
À la cool, Yves Régnier. Dimanche, c'était la manifestation contre le verdict de la Cour de cassation dans l'affaire de Sarah Halimi. J'imagine que vous allez en reparler avec vos débatteurs, qui a validé donc l'irresponsabilité pénale du meurtrier. Sur CNews, Meyer Habib, député de la 8e circonscription des Français établis hors de France, est revenu sur ce jugement et sur la notion de folie.
Toute personne qui tue une femme, un homme, un terroriste est forcément un peu fou. De défenestrer une femme après l'avoir massacrée à point nu pendant 35 minutes. Il s'est rendu en état de bouffée délirante parce qu'il a consommé du cannabis. Et il s'est rendu en état d'enlever tout discernement. Mais tous les kamikazes font la même chose. Les kamikazes japonais font la même chose. Les terroristes de Daesh font la même chose, vous savez, pour noyer des gens, pour tuer des gens. Est-ce que pour autant on doit pas avoir de procès? J'aurais voulu avoir un procès.
Et le débat, j'imagine, va continuer. Magique, bluffante, onirique, ces images de Thomas Pesquet dans l'espace.
Ouais.
Dites-moi que vous avez été ému par les images quand même.
Oui, oui.
Oh, bah, d'accord, vous n'avez pas été ému.
Si.
Après,
c'était très impressionnant.
Oui, avec le module, vous avez vu comment il s'est amarré. 23 heures de voyage donc, entre la Terre et l'ISS. Il rejoignait l'équipage et donnait une première conférence de presse depuis l'ISS.
C'est vraiment incroyable d'être de retour sur la Station Spatiale Internationale. Les choses ont beaucoup changé. Je vous avoue que je n'ai jamais vu autant d'astronautes à bord. Et je n'ai jamais vu autant d'engins spatiaux à bord. Et je pense que c'est un hommage à la réussite de ce programme spatial.
Je voudrais surtout remercier tous les gens qui ont travaillé sur cette mission en français. Et puis un petit mot pour les familles et les amis qui sont déplacés jusqu'à Cap Canaveral. Ça n'a pas été un voyage facile. En tout cas, ça m'a vraiment fait chaud au cœur de les avoir avec moi.
Voilà, Thomas Pesquet. Vous allez en manger pendant 6 mois.
Ah
Valérie.
Oui, ça c'est sûr. Bon, ça va peut-être se calmer un petit peu.
Oh, on
certains
ne sait pas.
Ont dit qu'il faudrait lui couper la 5G parce qu'il y en a un peu marre de tous ces messages. Non, je plaisante.
Vendredi, voilà. Chez Jean-Jacques Bourdin, Roselyne Bachelot reprenait son cheval de bataille. Un concert test qui aura lieu fin avril. Bon, ben, il reste peu de temps.
Ouais.
Alors, les concerts tests sont assez compliqués parce que ce ne sont pas des concerts qu'on mène comme ça, ce sont des concerts expérimentaux.
Oui.
Le coût du concert test, Jean-Jacques Bourdin, 900 000 euros. Je mets ce chiffre parce que nous recevons des centaines de demandes de concerts tests. C'est une opération extrêmement coûteuse.
Est-ce qu'il aura lieu?
Oui, bien sûr.
Quand?
Ça pourrait être avant la fin du mois d'avril.
Avant la fin du mois d'avril? Nous sommes le 23.
Oui, enfin, dans les 15 jours.
Allez, hop.
Voilà, je ne me souviens plus de la date.
Allez, à la louche. 900 000 euros, vous avez entendu, presque 1 million. Peut-être que ce serait mieux pour les hôpitaux qu'un concert, mais bon. Pour un concert test, moi je vous propose 0 euros, Valérie. Je vais faire des économies au gouvernement. Il suffit de faire aller au but de Chaumont, puis un petit week-end au 19e arrondissement. J'imagine que vous avez vu ces images sur les réseaux sociaux où il y a eu cette fête un peu clandestine. Écoutez.
Bravo, vous avez envie de danser, vous.
Ben oui, j'ai envie de bouger. Ouais, ça coûte 0 euros. Hein,
ouais.
Quand je pense que Roselyne va mettre 900 000 euros dans un concert.
Oui, mais là, s'il n'y avait pas de distance respectée.
Ah oui, là, pour le coup, il y a ces deux.
Voilà. C'est pas un test. Allez, on va retrouver Claude Sérillon, notre invité du jour.
Sud Radio 10h midi, Média, l'invité du jour.
L'invité du jour, c'est Claude Sérillon. Bonjour Claude Sérillon.
Bonjour Valérie.
On est ravis de vous recevoir et de vous avoir régulièrement à l'occasion de livres, puisque vous avez quitté la télévision il y a un certain temps.
Oui.
Vous publiez votre journal, Journal 2020, aux éditions 100 000 milliards. C'est un exercice très particulier que celui du journal, avec un regard qui est le vôtre, très engagé. J'ai trouvé que c'était très engagé, à gauche, dans votre pas mystère.
Mais je me suis jamais caché là-dessus.
Non. Ouais. Alors ce journal, c'était une manière quoi de raconter votre.
Il y avait d'abord pour moi le plaisir d'écrire parce que je pense que dans cette période où on est un peu recroquevillé sur soi, où on a du mal à. Moi, je suis pas très WhatsApp et compagnie là pour discuter par téléphone ou par vidéo. J'aime bien voir les gens, j'aime bien les toucher, j'aime bien regarder. Et là, donc, je couchais des impressions, des sentiments, des réactions, je pouvais avoir. C'était un peu incertain parce que il y a eu des moments où j'avais pas grand chose à écrire, puis d'autres moments où il fallait que j'écrive. D'ailleurs, vous verrez dans la chronologie, il y a des moments où j'ai enlevé d'ailleurs parce que c'était soit des commentaires trop liés à l'événement, parce que je voulais que ce journal, ce soit aussi comme une impression générale, qu'il en reste de dire, tiens, qu'est-ce qui s'est passé cette année-là? Comment on a réagi tous, les sentiments qu'on a eus de solitude, d'émotion, à travers des gens qui sont morts et qu'on connaissait. C'est pas seulement, effectivement, des papiers de journalistes.
C'est ça ce que j'allais dire, c'est un journal d'écrivains, à proprement parler. C'est pas une chronique de aujourd'hui, il a manqué tant de millions de masques. C'est, je vois le 11 avril, quand on aime, on le dit, jamais assez, des mots, des caresses, des tendresses, beaucoup encore. C'est vraiment votre. Quand on le lit, on est avec vous dans votre tête sur ce qui s'est passé ces jours-là.
Oui, c'est plus intime. C'est vrai que c'est proche d'un journal intime.
Ouais.
C'est à la fois un journal de journaliste, puisque je reste comme un journaliste.
Sur l'actualité.
Mais c'est. Je me dévoile un peu plus. Je raconte des sentiments, parce qu'il y a eu des. On a eu des moments incroyables l'année dernière et on continue à en avoir. Des moments d'émotion incroyables qui sont dus à la distance, à l'impossibilité de serrer quelqu'un dans ses bras, à apprendre que quelqu'un avec qui on avait beaucoup ri, beaucoup aimer la vie, ce quelqu'un est mort. Donc, j'ai voulu le dire simplement, le raconter à ma manière.
Simplement, pas toujours, puisqu'il y a des poèmes.
Oui, il y a
des
poèmes.
Donc, là aussi, c'est assez.
Oui, mais j'ai déjà écrit 2 livres de poèmes parce que j'aime bien ce. Et j'ai découvert le plaisir de la poésie et le plaisir de ceux qui aiment la poésie. Vous avez une des rencontres quelquefois avec les gens. J'étais dans des lieux formidables où il y a des lectures de poésie, puis on échange. Puis les mots ne signifient pas toujours la même chose pour chacun. Et la poésie vous permet de toucher un peu plus intimement, là aussi, encore le lecteur.
Vous avez conseillé François Hollande. Vous pensez qu'il aurait géré la crise du Covid différemment qu'Emmanuel Macron, puisqu'on lui reproche beaucoup à Emmanuel Macron ? Vous lui aurez conseillé quoi sur la crise du Covid?
Moi, j'étais un conseiller particulier. Hein. Je n'avais pas de compétences particulières. Vous savez, je crois que quand on fait le métier de journaliste, et surtout la manière dont je l'ai fait, on est un peu saltimbanque. Donc, j'y étais par conviction et par amitié pour lui, parce que je lui reste fidèle. Mais je ne sais pas. Je serais incapable de vous répondre là-dessus. Et je ne sais pas qui pourrait aujourd'hui répondre. Peut-être que dans 10 ans, on analysera un peu plus. Mais à la fois, regardez, tous les débats, il y avait Valérie anime des débats là-dessus. Chacun a un avis. En fait, il y a même des chercheurs qui disent, qui avouent, on ne sait pas. Mm. On ne sait pas. On doit prendre un peu de recul, être très prudent dans nos commentaires.
Pourquoi être très à gauche, comme vous l'êtes dans votre livre ?
Parce que je pense que c'est de ce côté-là que le progrès se fait. Toutes les grandes lois ont été faites par des gens de gauche, que ce soit les communistes ou les socialistes, ou des verts d'ailleurs, comme on dit. C'est rarissimement la droite qui fait les grandes réformes. La peine de mort.
L'IVG,
il a fallu que la gauche vote dans son entier avec Simone Veil, et que Jacques Chirac appuie de ce côté-là aussi. Mmh. Donc ça prouve que... Enfin, ça prouve... Moi, c'est mon éducation, c'est ma manière de voir, c'est parce que j'ai exercé ce métier de journaliste toujours en essayant de montrer qu'on ne pouvait pas être objectif. On est toujours subjectif. Oui. On est toujours sous l'émotion, sous un ressenti.
Oui. Donc, ce qu'on reproche aux journalistes aujourd'hui, de dire vous devez être objectif. C'est un argument qui revient.
Ça, c'était une recommandation qu'on faisait du temps de l'URSS. Hein, les pays totalitaires disent que leurs journalistes doivent être objectifs. Erdogan, c'est ce qu'il dit. Donc, moi, je pense que non. Chaque journaliste, effectivement, doit faire part de son émotion.
Donc, Jean-Pierre Pernaut, quand il fait au 13h, il donne son
moi,
avis.
Je respecte,
vous êtes plutôt d'accord.
Je respecte cette manière de faire. C'est pas du tout mon style ni mon éthique. Mais ça existe et c'est bien que ça existe.
Mais qu'est-ce qui a changé? Vous la regardez, la télévision? Vous regardez les infos?
Honnêtement, pas beaucoup. Moi, je lis beaucoup, j'écris, j'écoute beaucoup la radio, parce que je trouve qu'il y a une proximité plus intéressante. Et puis, tout bêtement, je vais chez mon vendeur de journaux et je vais acheter des journaux papier, parce que j'aime bien le papier.
Oui, mais c'est vrai quand on parle d'engagement, on voit qu'à une époque, alors certains vont dire c'est toujours le cas, les journalistes étaient principalement de gauche, et là on voit émerger une tendance, une opinion de droite qui est de plus en plus présente dans les médias.
Oui,
peut-être ça qui a fait changer...
Sur les chaînes d'infos continues, c'est tellement évident. Vous pouvez même être condamné pour des propos racistes et continuer à être à l'antenne, ce qui, il y a 20 ans, aurait été totalement impossible.
À l'inverse, il y a 20 ans, on ne les entendait pas, les Éric Zemmour et les gens de droite, dans les médias.
Vous croyez ?
Vous
voulez que je vous donne des noms, moi, que je connaissais ?
Donnez-moi des noms.
Il y avait des gens qui étaient... Écoutez, très majoritairement, les dirigeants des chaînes de télévision, ils étaient quand même plutôt marqués à droite.
Oui, mais le pouvoir des journalistes,
j'en sais,
était à gauche.
Quelque chose. Oui. Hein, je me suis fait virer suffisamment par des gens comme ça. Je ne crois pas que ça soit aussi binaire que ça. Moi, je pense que ce métier doit être fait avec rigueur, honnêteté, mais sans cacher son émotion ou son envie de faire partager des idées de progrès. Moi, ça ne me gêne pas du tout qu'il y ait des gens différents dans une rédaction. J'étais à la tête d'une rédaction, je sais à peu près comment les uns et les autres pensaient. Mais c'est un collectif, une rédaction.
Et justement, vous aviez été, lors de votre dernier journal, très clair sur ce qui s'était passé. Écoutez.
Voilà, c'est donc ma dernière édition de 20h. Je n'ai pas souhaité cette fin, mais je suis fier d'avoir présenté pendant 3 ans un journal digne du service public, libre, ouvert sur le monde et rigoureux. Je le dois au travail de tous à la rédaction de France 2. Alors je voudrais vous dire avec émotion ma gratitude à vous qui nous regardez finalement et qui m'avez témoigné ces derniers jours votre amitié. Au revoir, bonsoir, merci.
Il se passe quoi ? On rentre chez soi ? On a le téléphone qui sonne plus ? Il se passe quoi à la fin du journal ?
Oui, mais vous savez, il y a plein de gens qui se font licencier. Hein, donc c'est un peu plus spectaculaire parce que vous êtes à l'antenne et puis après on fait autre chose.
Et le départ de Jean-Pierre Pernaut, c'est le seul finalement qui part de lui-même, non ? dans les présentateurs de journaux en général.
Non, Bernard Rapp était parti de lui-même.
Bernard Rapp, oui, absolument.
Mais en solidarité avec moi d'ailleurs.
Oui.
Parce que je faisais bien. Mais Bernard avait choisi ensuite de faire une très belle carrière de réalisateur de cinéma, donc de films. Donc oui, non, il doit y en avoir d'autres.
Sinon, oui, il n'y en a pas eu beaucoup. Sinon, ils sont partis.
Non, mais c'est une pratique. Il y a toujours dans toutes les médias, il y a toujours cette idée que avant soi, c'est des incapables et après, c'est des arrivistes. Donc on pense toujours qu'il faut nettoyer dès qu'on arrive et considérer que tout ce qui a été fait avant n'était pas bien.
Ouais.
Je trouve que c'est une grande erreur parce qu'il faut qu'il y ait une continuité. C'est comme en matière politique. Il est erroné de penser que le président précédent n'a rien fait. Il y a toujours quelqu'un qui a fait des choses. Et puis ça, c'est... Et voilà, la continuité de Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron, puis demain, il y aura quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. La continuité de la République, c'est une belle chose, d'ailleurs.
Et on vous a dégagé du 20h à cause de vos opinions politiques ?
Pas spécialement, non. Cette fois-là, non, puisque c'était un Premier ministre de gauche.
Ah oui ?
Donc, vous voyez, non, c'est parce qu'on avait estimé que mes questions dérangeaient trop.
Mm.
Vous savez, moi, je ne cache pas mes convictions personnelles, mais je pense que j'ai toujours essayé de faire ce métier avec beaucoup de rigueur. Mm. J'ai essayé d'être le plus honnête possible. Je me suis trompé quelquefois, c'est évident. Mais j'ai essayé de rester à peu près avec une colonne vertébrale droite.
Ouais. C'est dans votre journal, il y a évidemment beaucoup d'humour. On connaît votre petit sourire en coin. Moi, j'ai bien aimé le 23 mai, Philippe Gardien de Parc.
Oui.
Vous parlez de l'importance de la pelouse.
En plus, je pense que c'est quelqu'un qui a de l'humour en plus.
Oui, oui, absolument.
Et je me suis dit, mais il faut qu'il s'occupe de ça, quoi.
Absolument.
Il faut qu'il soit. On demande maintenant aux responsables politiques de s'occuper aussi bien de ce qui se passe dans le reste du monde que de choses tout à fait domestiques. Vous savez, c'était le vieux truc sur les cages d'ascenseur. Il y a quand même des moments été pendant quelques mois au plus haut niveau de la République. Je sais qu'il y a quand même, quand vous dirigez un pays, c'est invraisemblablement compliqué. Ne serait-ce que parce qu'il y a des relations internationales, ne serait-ce que parce qu'une économie n'est jamais indépendante, elle est toujours interdépendante. Et tout cela, dès qu'on prend une décision, ça engage beaucoup de choses.
Ouais.
Sans compter qu'il y a ce qu'on appelle les corps intermédiaires, que vous avez un conseil d'État, des juristes qui disent « Ah non, c'est pas possible », des technocrates qui disent « Ah non, c'est pas possible ». Donc c'est infiniment compliqué.
Ouais.
Moi, j'ai beaucoup de mansuétude à l'égard du monde politique, parce que je trouve ça très compliqué.
Parce que vous y avez... Vous l'avez vu de très près.
Oui,
donc
j'en ai beaucoup plus que...
Oui, beaucoup plus que vous n'en aviez avant, c'est-à-dire que vous avez plus de...
Oui, je pense que...
Vous savez à quel point cet exercice est difficile.
Je pense que j'aurais connu ce passage à l'Élysée au début de ma carrière, j'aurais peut-être pas été exactement le même journaliste.
Ouais.
Mais... Pour compléter ma phrase, j'ai plus de mansuétude pour le monde politique que pour le monde médiatique maintenant.
Ouais.
Je trouve qu'on raconte tout et n'importe quoi, et souvent sans avoir vérifié.
Quel est le pire milieu, le milieu politique ou le milieu de la télé ?
Oh non, c'est pas chacun ses défauts.
Très
franchement, peut-être que le monde des écrivains est plus à l'abri parce que comme chacun est dans son coin à écrire et que ce sont des solitaires, ils ont plus d'humour et de recul sur ce qu'ils à la fois sur ce qu'ils font. Et sur ce qu'écrivent les autres.
Alors, à noter, Valérie, que 100 000 milliards, son éditeur est un peu spécial, c'est un peu le Netflix, parce qu'il n'imprime pas les livres. Vous pouvez les trouver en librairie, mais il imprime sur commande pour économiser du papier.
D'accord.
Et alors, est-ce que c'est quelque chose qui vous a touché de
Guillaume
Valut...
Il
faut se connecter pour acheter le livre, en fait.
C'est Guillaume Valut
qui est le créateur de ça, c'est-à-dire, il n'est pas tout seul, il y en a d'autres qui tentent ça. C'est de dire que, quand même, il y a un énorme gaspillage. Il y a un gaspillage en distribution.
Quand on pilonne les livres, quand ils ne sont pas vendus.
C'est un impact CO2 sur le transport, comme on dit. Donc en fait, impression à la demande. Il n'y a pas de gestion de stock.
Ouais.
Il faut voir quand même que 90% des livres se vendent à moins de 2000 exemplaires.
Ouais.
Alors quelquefois, ils sont tirés à 10 000. Qu'est-ce qu'on fait du reste ? On met pilon et on jette. C'est absurde.
Sauf que
c'est vrai que c'est
plus
tout un
compliqué.
Circuit.
C'est-à-dire qu'il n'y a plus l'achat d'impulsion où on voit, tiens, Claude Sérillon.
Non. Voilà, c'est ça.
Il faut faire la démarche,
il faut commander sur le site,
d'aller le chercher.
Il faut que les libraires acceptent d'en prendre quelques-uns. C'est difficile.
Ça vous a séduit comme choix ?
Oui, parce que je trouve que c'est un choix courageux. C'est évidemment, ça pénalise un peu l'auteur parce qu'on en vend moins. Mais je trouve que c'est très intéressant. C'est une piste intéressante.
On vous proposerait de revenir à la télévision, vous reviendriez ? On vous pose sûrement souvent la question.
Oh là là, d'abord c'est fort peu probable. Ouais. Et puis je sais pas. Non, je suis pas. Je trouve que j'ai fait un chemin intéressant, très multiple. Ouais. Je sais pas. Je suis très fier d'avoir été parmi les créateurs du Téléthon, d'avoir
d'avoir fait Géopolis,
d'avoir fait pendant 12 ans une émission de géopolitique. Je trouve ça formidable. J'ai travaillé avec Maurice Reims, j'ai travaillé avec Hubert Reeves, et je trouve ça, j'ai eu une chance incroyable de faire toutes ces émissions.
Et la Nuit des Étoiles.
Et la Nuit des Étoiles avec Hubert Reeves, que je salue, qui va bientôt avoir un anniversaire important. Ouais. Donc, moi j'ai fait beaucoup de choses intéressantes, passionnantes, en totale liberté. Quelquefois ça m'a coûté, mais je ne regrette absolument pas, parce que je crois qu'il faut faire ce métier, effectivement, avec toujours l'esprit libre.
Oui, et vous êtes très libre dans ce journal, avec... encore une fois, un engagement très à gauche. Vous, par exemple, Adama Traoré, ça m'a étonné que vous soyez aussi affirmatif et parti pris sur cette affaire-là en particulier.
Parce que je pense qu'il faut toujours être attentif aux victimes. Vous savez, c'est la fameuse phrase d'Éluard citée par Pompidou à propos de l'affaire Gabriel Russier. Ouais. Hein j'ai plutôt tendance, c'est comme ça. J'ai été chroniqueur judiciaire pendant un moment, donc je connais un peu ce monde-là. Mais quitte ensuite à dire, je me suis trompé. Mais je préfère montrer mon émotion plutôt que la dissimuler.
Oui, mais est-ce que les bons sentiments de la gauche n'ont pas fait émerger l'extrême droite, finalement ?
J'en sais rien. Les bons sentiments de la gauche.
Ouais.
Vous croyez qu'il n'y a que des bons sentiments à gauche ? Je ne suis pas sûr. Quand vous voyez comment la gauche se déchire, je ne suis pas sûr qu'ils aient tous des bons sentiments.
Ah, mais pas tous. Ça, c'est le pouvoir.
mais en tout cas, c'est une lecture très agréable, très intelligente, j'ai envie de dire, parce qu'on vous suit. Encore une fois, moi, je maintiens, même si on reste journaliste toute sa vie, que c'est un journal d'écrivain, parce qu'il y a eu. Il y a une plume, il y a un style, il y a une pensée et c'est vraiment un même si on n'est pas toujours d'accord avec vous, il y a des choses, il y a des engagements et on ne peut être que séduit en tout cas par ce journal 2020 aux éditions 100 000 milliards. Donc il faut aller sur le site, c'est ça ?
Ouais. On va sur le site ou alors on va chez un libraire, on le commande et vous l'aurez.
Merci Claude Sérillon d'avoir été avec
Valérie.
Nous et on attend le prochain livre. Alors, oui. Je sais que Gérard Collard avait adoré le précédent de vos livres. C'était sur la rencontre entre De Gaulle et
Franco.
Absolument.
Ça s'appelle Un déjeuner à Madrid.
Et il existe en collection de poche.
Et il existe en poche, il est au Cherche Midi. Ouais. Et c'est une histoire incroyable qui est passée un peu inaperçue, mais qui m'avait bien intéressée.
Ah, qui était passionnant. Je me souviens que Gérard avait été très enthousiaste.
Il a acheté deux livres.
Merci Claude Sérillon.
Merci à vous.
Nous, on se retrouve dans un instant. À tout de suite.
Et donc, Valérie. La question du jour, elle concernait le comédien Yves Régnier. Eh ben, ça a beaucoup bougé durant l'interview de Claude Sérillon, puisque 14% les Globetrotters, c'est peut-être mon extrait qui a influencé, écoutez. Ouais. Et Commissaire Moulin, 77%, Belphégor, 6%, et Jacqueline Sauvage, 2%. Voilà,
nous, ça a duré quand même près de 30 ans, Commissaire Moulin, donc c'est sûr que c'est...
Nous, on l'avait bien aimé, Yves Régnier, il avait été sympa quand il est venu nous voir.
Il n'avait pas la langue dans sa poche, absolument. C'est le moins qu'on puisse dire. On se retrouve dans un tout petit instant pour parler de l'école à la maison, sujet qui fait débat en ce moment. Katia Chapoutier a suivi 4 familles qui ont décidé de scolariser leurs enfants à la maison. On va en parler avec elle dans un instant. À tout de suite.